Nous arrivons maintenant à la troisième partie de notre cours. Le terme catholique que nous allons utiliser maintenant est certainement le plus difficile à comprendre, tellement il a été détourné de son sens originel du fait de nos divisions. Cependant, la catholicité de l'Église n'est pas une affaire de confession, de petites querelles de clochers, mais une réalité spirituelle, un don de Dieu. C'est par un effet tragique du développement de l'histoire de l'Église que ce terme si important pour comprendre la nature de l'Église en soit venu à être la caractéristique de la démarcation et de la division confessionnelle, et que pour certains, le terme s'identifie encore à la romanité. Or, ce terme est un des plus anciens utilisés pour qualifier l'Église. Nous allons donc essayer de le retourner à son sens premier, qui est lié à l'universalité, mais n'est pas un exact synonyme. Si le terme catholique n'apparaît pas dans le Nouveau Testament, il est attesté très tôt dans l'histoire de l'Église. Les anciennes professions de foi baptismale dont nous avons retrouvé la trace comportent en général ce terme, qui est en particulier dans le symbole des apôtres. La plus ancienne utilisation de ce terme est en général attribuée à saint Ignace d'Antioche, vers 110. Vous l'avez sur votre feuille. Là où paraît l'évêque, là est la communauté. De même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. C'est vers 110 après Jésus-Christ. Ce terme catholique est utilisé pour distinguer l'Église locale, une Église particulière dont l'évêque est la tête légitime, de l'Église universelle, l'Église dans son ensemble, et qui se trouve, elle, en Jésus-Christ. L'Église locale est en un lieu. Jésus-Christ est la plénitude, et l'Église est catholique dans la mesure où elle a part à cette plénitude. Henri de Lubac dira « À Jérusalem, le jour de la Pentecôte, l'Église était déjà catholique. » Au moment du martyre de l'évêque Polycarpe de Smyrne, vers 160, une lettre est adressée à toutes les communautés de la Sainte Église catholique en tout lieu. Ce sont essentiellement des lettres adressées aux églises d'Asie mineure. Pour Augustin, bien après, puisque Augustin vit entre 354 et 430, catholique signifie l'Église universelle, celle qui est aux dimensions du monde, à la différence de division schismatique qui existait déjà, bien évidemment, et qui reste locale. Ceci nous permet d'avoir une idée de la signification du terme catholique. Ce terme signifie d'abord le général, l'universel, ce qui est lié au tout, à tout, par opposition au particulier, au partiel, à l'individuel. Pour d'autres, et très tôt dans l'histoire de l'Église, la catholicité exprime une sorte de perfection dans la vérité et dans l'union au Christ des églises de l'Église. Ces deux compréhensions, la perfection dans la vérité, dans l'union au Christ, et le général, l'universel, ce qui est lié au tout, deux compréhensions non exclusives l'une de l'autre, vont durer tout au long de l'histoire de l'Église. Et dès la fin du second siècle, donc très tôt, on attribuera le terme catholique, on associera le terme catholique au terme véritable Église. La catholicité de l'Église est définie par la présence universelle du Christ, qui est la vérité et qui réunit tout. La catholicité de l'Église est spatiale, présence à tous les lieux de la terre habitée, et également temporelle, présence à tous les temps de l'histoire. Vincent de Lérins, vers 435, écrit « Catholique, ce qui a été et est cru, partout, toujours et par tous. » La catholicité de l'Église est nécessaire et complémentaire de l'unité. La catholicité désigne la totalité interne de l'Église, malgré l'éparpillement d'éléments dispersés, dispersés par la géographie, dispersés par les habitudes, dispersés par la diversité. Relative au Christ, l'Église est relative au monde entier, puisque Jésus est venu pour le salut du monde. L'Église, en tant que catholique, est là pour tous. La catholicité est un signe d'une unité en profondeur des chrétiens qui font l'expérience spirituelle d'être unis par leur commune appartenance au corps du Christ, malgré leur dispersion et leur division. On est bien loin, dans cette signification, d'une appartenance confessionnelle au sein du christianisme. En revenant à l'hymne liturgique de l'Épître aux Éphésiens, nous commencerons à appréhender quelque chose de cette catholicité, en tant que plénitude de la promesse que Dieu accomplit en Jésus-Christ. Je vous lis cette fin de l'hymne aux Éphésiens. « En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous en toute intelligence et sagesse. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. » La catholicité de l'Église désigne, comme l'unité ou la sainteté, quelque chose qui est de l'ordre du don de Dieu, autant que du but à atteindre en réponse à ce don. Elle est située dans la plénitude eschatologique. L'Église est la plénitude de celui qui est en elle et par lui. Elle remplit l'univers. La catholicité est don de Dieu en Jésus-Christ et par l'Esprit-Saint. C'est cela que nous affirmons lorsque nous disons notre foi en l'Église catholique et nos frères séparés qui n'appartiennent pas à l'Église catholique romaine entendent ce sens-là quand ils affirment leur foi en l'Église catholique. Il est vrai que dans l'Église réformée de France, souvent on dit l'Église universelle, tant le mot catholique qui a été préempté par l'Église romaine arrache un peu la bouche. Cependant, on voit bien, la catholicité signifie tout le contraire de l'étroitesse et d'une vision bornée, d'une mentalité de démarcation. Elle signifie ampleur, totalité, plénitude, universalité. Cette catholicité devient une tâche pour l'Église, un chemin, une invitation à une réalisation concrète et donc à toutes les conversions et renoncement à notre suffisance que cela signifie. La catholicité de l'Église implique la disponibilité au renouvellement et à la réforme. Ecclesia semper reformanda, Église toujours à réformer, disait le Concile. Cela est vrai pour chacun des chrétiens et pour chacune des institutions qui se disent chrétiennes, quelle que soit leur confession. C'est un grand enjeu pour l'œcuménisme. Passons maintenant au quatrième adjectif, l'Église est apostolique. Il n'est pas compliqué de deviner que le qualificatif apostolique vient du mot apôtre. Dans l'Antiquité, l'apôtre est l'envoyé, pourvu de l'autorité de celui qui l'envoie. On n'avait pas Internet, pas de fax, pas de téléx, il fallait prendre ses responsabilités à distance. L'apôtre n'est pas un simple délégué. Il est plus que le représentant de celui qui l'envoie. Il est comme celui qui envoie. Vous voyez la portée du terme quand Jésus choisit parmi ses disciples 12 à qui il donne le nom d'apôtre. Dire que l'Église est apostolique, c'est quelque part dire que l'Église est fondée dans le Christ. Et ceci, c'est dans un double sens. L'Église est apostolique parce que son évangile, sa bonne nouvelle, est fondée dans le témoignage des premiers apôtres. Et c'est également dire qu'elle existe dans l'accomplissement de la mission d'annonce confiée aux apôtres. Donc, deux choses, fondée dans les apôtres, parce que l'Évangile est fondé dans les apôtres, et réalisant la mission donnée aux apôtres d'annonce. Les apôtres sont investis d'une autorité durable et l'Église reçoit, en tant qu'Église, cette autorité de l'apôtre. L'origine apostolique de cette autorité se trouve dans la révélation elle-même et dans le fondement de l'Église dans le Christ qui a choisi ses apôtres. Jésus-Christ est celui qui est envoyé par le Père. De même qu'il a été envoyé, il envoie ses apôtres. Les apôtres sont les témoins originels et premiers du message de Jésus et de la résurrection. L'apostolicité de l'Église dit « Il ne peut y avoir d'autre évangile. Nous sommes liés à la foi transmise une fois pour toutes par les apôtres, à l'enseignement et à ce qu'on appelle le dépôt apostolique. Il nous appartient de le transmettre fidèlement. » Cependant, eh bien, comme pour le reste, la notion d'apostolicité a évolué dans l'histoire et pas toujours dans un sens qui favorise l'unité et la sainteté de l'Église. L'évêque Irénée, qui est évêque de Lyon de 177 à 202, pense l'apostolicité dans une théologie de l'institution ecclésiale. Pour lui, l'autorité des apôtres est transmise légitimement aux évêques. Les évêques ont en charge l'Église, qui est gardienne de la vérité et de la foi des apôtres reçus dans l'Écriture. Donc, par ce truchement de l'évêque lié à l'Église, est garantie la conformité avec la révélation de ce qui est dit dans l'Église. La transmission de l'enseignement des apôtres n'est ainsi pas laissée à l'initiative de personnes privées. C'est l'Église qui en a la charge et seuls les évêques, considérés comme successeurs des apôtres, ont l'autorité des apôtres pour trancher la véritable doctrine et transmettre le véritable évangile. Ce sont eux seuls qui garantissent la conformité de la doctrine avec la révélation. De cette théologie de l'Église, Irénée voit une confirmation dans l'unité de l'enseignement des apôtres. Alors, rappelons un petit peu quelque chose du personnage d'Irénée. Irénée est né à Smyrne. C'est un disciple de Polycarpe qui a vécu très longtemps. Il dit avoir été ordonné évêque par Polycarpe avant de faire le voyage vers l'Occident et de devenir évêque de Lyon. Et Polycarpe se considère lui-même comme successeur de l'apôtre Jean. Donc, on voit apparaître cette idée de succession apostolique, l'apôtre qui désigne l'évêque, qui désigne l'évêque, qui désigne l'évêque. Et cette apostolicité va devenir de plus en plus importante. Ainsi, à partir du Moyen Âge, et encore plus à partir des réformes de la Renaissance, on va perdre de vue le caractère de transmission de l'Évangile, de mission de l'apostolicité, pour ne voir dans l'apostolicité que la fondation sur les apôtres et leurs légitimes successeurs. Et on va distinguer à ce moment-là trois aspects différents de l'apostolicité. L'apostolicité d'origine des Églises. Elle dit que les véritables églises remontent aux apôtres. Ainsi, c'est assez clair pour l'église catholique romaine qui remonte aux apôtres Pierre et Paul, mais d'autres églises, comme l'église arménienne, se dit avoir été évangélisée par les deux apôtres, Thaddée et Barthélemy. Barthélemy apparaît dans les synoptiques, Thaddée dans les actes des apôtres et dans les lettres de Saint Paul. L'église orthodoxe géorgienne, fondée au 1er siècle par l'apôtre André, tire sa légitimité d'être la première église d'un pays fondé par un apôtre. Selon la tradition, l'église éthiopienne aurait été fondée par Matthias et l'église Syro-Malabar, en Inde du Sud, par l'apôtre Thomas. Ça, c'est la première forme d'apostolicité, apostolicité d'origine. Après, on va parler d'apostolicité de doctrine. Cette apostolicité de doctrine est mise en œuvre sous la responsabilité de l'évêque, qui est successeur des apôtres, qui a en charge la fidélité de la vraie foi. Et ensuite, on parlera de l'apostolicité de succession hiérarchique. Tout évêque est consacré par des évêques, dans la continuité depuis les apôtres. Et ainsi, une ordination épiscopale, pour être valide, doit avoir respecté cette continuité apostolique et ne seront reconnus comme église dans la tradition de l'Église catholique romaine que celles qui ont des évêques ordonnés sans qu'il n'y ait eu rupture dans ces ordinations valides. Alors aujourd'hui, le grand enjeu, c'est de retrouver le vrai sens de l'apostolicité, qui est à la fois un don de Jésus-Christ lui-même et une tâche. L'apostolicité exprime la conscience de l'Église d'être l'Église de Jésus-Christ, dans laquelle Jésus-Christ lui-même se donne à entendre par la voix des apôtres. Elle est également à regarder dans une perspective eschatologique avec un regard sur la fin dernière. Entre l'origine apostolique et le but eschatologique se trouve le temps de l'Église et de sa mission jusqu'à la fin des temps. La mission est portée, prolongée et suscitée de façon toujours nouvelle par l'Esprit-Saint. Il s'agit de rappeler la parole et l'œuvre de Jésus-Christ, de nous introduire de façon toujours nouvelle dans la vérité. C'est ainsi que l'héritage laissé par les apôtres nous est d'une part déjà donné, et d'autre part, il est une tâche dont nous sommes chargés de façon sans cesse nouvelle dans l'Esprit-Saint. La continuité avec l'origine apostolique est une continuité créative qui innove. La continuité et l'identité dans la foi et l'œuvre apostolique et l'œuvre de l'Esprit-Saint.